Alors, sous le titre « Signes de la civilisation agricole », il faut entendre ce que nous pouvons voir aujourd'hui, qui est en construction ou en aménagement, qui marque les nécessités de l'époque d'une civilisation qui vit de la terre et de l'élevage. Alors d'abord, nous allons cheminer, on va passer assez vite. Nous marchons, vous conduisez votre groupe à travers, vous allez vers un village.
Alors donc, les abords, vous allez voir, on chemine, on avance, et on se demande pourquoi c'est un clos, pourquoi c'est un chemin, celui-là est creux, celui-là n'est pas creux, celui-là longe une palissade, il y a un champ, etc. Donc les abords, enclore, circuler, protéger, c'est essentiel pour le paysan. Le paysan est quelqu'un qui chemine sans arrêt. Quand il rentre à la maison, c'est pour manger ou dormir. Dehors, c'est pas la carte postale touristique dehors, c'est le lieu de vie. Alors bon, voyez la châtaigneraie, ce qu'il en reste là, la châtaigneraie vivrière. On aperçoit des palins et une construction. Ensuite, là, c'est significatif d'un troupeau de brebis qui sont là, l'Ovelia, ça se dit en Limousin. Ça veut dire brebis, en Loumout, ça se dit pas tellement. Alors, la fumée, c'est le signe de la présence de l'homme. Tout à l'heure, on parlait de feu. Ça veut dire que partout une fumée sort d'une souche de cheminée, dessous, il y a pour manger, il y a la marmite, il y a la cuisinière, pas la cuisinière en fonte, la personne qui fait la cuisinière avec la marmite, après la cuisinière qui est greffée dans le manteau. Et puis il y a une famille, on compte 4-5 personnes pour un feu. C'est une terminologie toujours valable, qui est toujours employée par les ethnologues, parce que la seule manière de parler de la civilisation rurale, c'est de compter par feu. Alors les chemins, vous cheminez, là, chemin pour cheminer, bien sûr, vous allez vers les prés, je vais parler des prés de fauche. Là, c'est un chemin creux. On appelle ça en Limousin l'ovia. Tout de suite, vous voyez que c'est un terme qui nous remonte aux Romains. La via, l'ovia. Et on dit prundo, profonde. Alors ça, c'est extraordinaire. Il en reste encore quelques-unes, des fois sur 2-3 kilomètres, d'autres 300 mètres. C'est les chemins pré-néolithiques. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, qui sont creusés par le cheminement, par l'érosion, et qui c'est pas avec des pioches que les gens ont creusé pour le plaisir de s'enterrer, pour cheminer, c'est pas la guerre des tranchées. Donc ça chemine, celle-là, elle part de Saint-Thirier, et elle va vers Glandon, traverse, et puis attendez, oui, elle rejoint, je sais pas, fait d'autres voies importantes, très intéressante. Il y en a une autre qui va vers Château-Chervy, qui est le chemin du fer, etc. C'est pas d'aujourd'hui que les gens cheminent. Depuis que... Mais je vais aller trop loin. Alors, ça, c'est le chemin du moulin, par exemple. Ça descend. C'est un pays granitique, parce que le moulin est toujours en bas. Il est près de l'eau. Nous n'avons pas de moulin qui tourne avec le vent. Nous avons des moulins qui tournent avec deux sortes de daubes ou de... On verra ça tout à l'heure. Pour les moulins. Les chemins, on chemine, on marche. Mais chaque chemin est une histoire. Chaque chemin veut dire quelque chose. Et il faut le comprendre. Mais c'est difficile de le comprendre quand on ne l'a pas expérimenté. Là, il y a un mur maçonnique. Ne croyez pas que c'est la nature qui a fait ça à droite, là, ce talus-là. C'est la main de l'homme qui l'a fait, ça. Ça aussi, ça non. C'est le passage qui l'a fait. C'est en plein tuf, là. Ou en arène, c'est de l'arène, il y a 3 mètres d'arène. Derrière, chez notre petit village, il y a 60 mètres d'un chemin qui fait 6 mètres de profondeur, 6 mètres de large. Une extraordinaire. C'est ce qui reste après le remembrement ou démembrement, choisissez votre terme, qui a défait les choses. Il fallait bien faire des unités de production. Voilà, appelons ça le chemin du moulin. On reviendra pour les moulins tout à l'heure. Il y aura des images particulières. Un soutènement, un bel appareillage, digne d'une cathédrale. Appareiller un mur ou appareiller une cathédrale, c'est les mêmes travaux, on dira ça tout à l'heure. Bon, évidemment, ce n'est pas à joint vif, mais c'est rigoureusement calé. Parce que les paysans savent bien, paysans qui dressent, ils savent bien que s'ils ne calent pas les pierres, la poussée fera tout renverser, puis ils n'ont pas de mortier. À cette époque-là, on ne connaît pas le mortier de chaux, on n'en a pas. Il est connu depuis longtemps, mais le paysan dans ce village n'a pas de la chaux, surtout dans un pays granitique. Voilà, là-bas. Alors, ça va vers... admettons qu'il va vers les prés. les prés, je vais les appeler les prés de Fauche. Alors, je vais tracer verticalement sur ce mur, là, l'emplacement du village. Là-haut, ce qui est en hauteur. Là, tous les courtillages autour du pré de Pense à Quenouille.
Qu'est-ce que les courtillages ?
Les courtillages. Ah, eh bien, c'est ce qui est autour de la cour principale qu'on appelle charrière en Limousin, mais en français ça s'appelle les courtillages, c'est toujours au pluriel, où ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend le couder, le jardin, l'enclos, le verger, l'ouvarzier, le verger, ça dépend comment on parle. Ça dépend, la châtaigneraie, tout ça c'est dans le courtillage. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le courtillage ? Le couder à cochon, le couder à châtaigne. Tout ça c'est ce qui est autour de la maison, où par amplification, autour du village. Ça va pour courtillage ? Bon. Si vous étudiez le Moyen-Âge, ça en parle sans arrêt dans le courtillage. Alors, les prés de Fauche. Alors, j'étais là-bas. Alors, vous descendez en bas, la rivière est là. Mettons que ce soit ça, la rivière. C'est une coupe verticale. Hein. Alors, les prés de Fauche, c'est l'herbe naturelle que l'on peut faucher à la main. Dans cette époque-là, hein, les prés de Fauche. On dit de Fauche, de ça veut dire, c'est en terminologie qui est passée en français, mais ça veut dire qui sont à faucher ou que l'on peut faucher. Oui. Alors, ces prés de Fauche sont très précieux. C'est ce qui vaut le plus cher. À la fin du XVIIIe siècle, au point de vue hectare, c'est les prés de Fauche qui valent le plus cher. C'est eux. Parce que à cette époque-là, c'est la conquête de l'herbe, conquête du troupeau. Le troupeau, c'est du lait, c'est du fromage, c'est de la viande, c'est de la fumure. Et on peut faire de la prairie et on augmente. Alors les prés de Fauche sont vendus très cher. Après, c'est les terres labourables, parce qu'il y en a beaucoup à cette époque-là, les terres labourables. C'est ce qui domine dans les communes de la montagne. Après, c'est les chênevières. On va parler des chênevières. Alors, les prés de Fauche et les prés de fond. Alors, reprenons. Alors, ma rivière est là, mes prés de Fauche sont là, verticales, ils sont cloisonnés. C'est-à-dire que vous partez d'en haut et vous allez en bas. L'autre, il en a pareil, parce qu'il faut avoir à peu près l'herbe d'en haut et l'herbe d'en bas. Vous comprenez, elle est meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est... ça peut être parallèle. Alors, c'est irrigué de par en haut. Alors, l'irrigation, elle est de surface parce qu'on appelle les péchières ou les serves. On irrigue, on envoie de l'eau au printemps, lorsque l'avril, la gelée est passée, que les feuilles ont été ramassées, balayées, brûlées, on envoie l'eau qui amène tous les éléments, les oligo-éléments, dans le haut du pré. C'est l'irrigation, mais il faudrait que je vous fasse un graphique là. Les prés de Fauche sont irrigués en tête du pré parce que l'eau descend. Hein, c'est long, ben, l'eau descend. Mais on fait des levades. On lève la couenne, la motte, sur une longueur avec un pic près. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est un peu difficile. Ceux qui n'ont pas vu, c'est difficile. Si j'avais les outils, je vous montrerais. On ne peut pas tout voir. Et l'eau court, on met une motte pour la diviser, faire inonder par là, etc., etc., pour inonder le pré, avril, mai, juin, et puis juin en fauche. Et on fauche à la faux à cette époque-là. Puis après, avec la petite machine, vous savez, qui fait tri-tri-tri-tri-tri, là, qui est avec les vaches devant. Mais si le pré n'est pas propre, taupinière, feuilles, pion des porcs, cette mauvaise herbe qui est comme de la soie de cochon. Alors tout ça, ça doit être épuré, ça vous enraye votre petite fauche. Donc les prés de fauche sont très précieux. Et après, en bas, vers la rivière, vous aviez les prés de fond. Les prés de fond ne sont jamais fauchés et ils sont toujours irrigués, il y a beaucoup d'eau. Des fois des tacaniers, des pouchouniers, c'est-à-dire des marécages dans la langue, mais on draine plus ou moins à cette époque-là. Je suis à la fin du 18e jusqu'en 1850, 19e. Les prés de fond, on est sûr de mettre les bêtes s'il y a une pénurie, si c'est très chaud, on descend les bêtes en bas. On descend quand je dis les bêtes, ça veut dire les vaches. Hein, c'est vrai qu'il y a une terminologie piégée. Je dis les bêtes, ça veut dire les vaches. Voilà, c'est le pré de fond. Puisqu'on est à parler des bêtes, j'espère que je leur en parlerai tout à l'heure, on les remue 4 fois par jour à cette époque-là. Alors, c'est un cheminement long de mur, mais la charrue peut pas, les vaches arrêtent là. Hein, peut pas. Alors on tourne la charrue et on repart dans l'autre sens. Ça s'appelle Tauvera. talvaire. En gros, c'est l'endroit libre où on ne peut pas labourer. Et donc, où l'on peut passer. Chemins et taux verts sont de libre consommation pour le paysan. Il n'a pas besoin de demander la permission, puis-je passer ? Passage interdit, c'est une abomination dans la civilisation que je vous décris. C'est impossible. On dirait, c'est pas possible. On a le droit de cheminer, bien sûr, si on est désagréable, qu'on laisse les barrières ouvertes, qu'on fait peur aux bêtes, ça c'est une personne désagréable, on lui fera des reproches. Mais tout paysan est libre de passer. C'est la coutume qui fait loi. On est changé. Un autre chemin qui nous mène vers un autre, très, très profond lui aussi, vers des terres. À droite, c'est des terres de labour. Les haies, l'ouplai, le randal, l'ogwars, autant de mots pour dire la haie qui est et vive. Là, celle-là a été abattu, ça c'est du charme, là, et là, c'est ce qu'on appelle, parce qu'autrefois, avant d'avoir le barbelé, c'est tout récent le barbelé, ça nous paraît un paysage normal, mais du temps où il n'y avait pas de barbelé, nous sommes en 1810, il n'y a pas de barbelé, ceux qui ont inventé le barbelé, c'est les Américains pour leurs grands troupeaux, et puis après il a servi à la guerre de 14, mais c'est pas elle qui l'a amené ici. Et au printemps, on faisait les liés, l'aliada. Et on prend une perche de noisetier ou une autre, on la courbe, on en courbe une autre comme ça, on la lie avec un vime, avec un osier, ou avec une autre chose, on la fait tenir, on peut mettre un piquet puis l'entourer, on n'a pas de fer. Hein. Et donc, en faisant ces liés contrariés, c'est la dernière que j'ai trouvée, un paysan a fait ça, c'est du côté de Saint-Priest-les-Bourgs. Passons, parce que ça devient anecdotique, alors que c'était la coutume aussi. Alors, voilà des palissades, des enclos, des coups d'air, vous arrivez près d'un village. Plus vous arrivez près du village, plus il est enclos. Hein, on disait, plus le courtillage est dense. Un mur recouvert avec un chaperon de tuiles courbes, un mur intermédiaire fruit de l'épierrage en haute marche, des barrières de différents styles, qu'on appelle des clèdes, de clé, C-L-A-I-E, c'est bien français, mais comme en oc, on dit autrement, on dit l'okieda. L'okieda, le sautadour, le sautadour. Pour sauter, pour passer d'un endroit à l'autre. Il y en avait partout, parce que je vous disais tout à l'heure que la liberté, la coutume est de laisser le libre passage à tout le monde. D'ailleurs, soi-même, on a besoin de passer sans arrêt. On chemine sans arrêt. Alors, les croix d'entrée de village, c'est une autre partie là.
Non, c'était dans les abords.
C'est dans les abords. Bon. Quand vous. C'est-à-dire, on rentre dans. Les villages se signalent souvent dans les pays de granit, parce que les croix dans les pays de pas de granit, il n'y a pas de croix. Il y avait des croix en bois. Mais les croix en bois, vous pensez bien qu'aujourd'hui, personne ne s'amusait à remettre une croix. Ça serait se compromettre peut-être. Donc, dans les pays de granit, Bretagne, on croit qu'il y a une religion des croix. Mais non. C'est parce qu'il y a de la pierre. C'est parce qu'il y a de la pierre qu'on a taillé des croix. Alors, c'est la croix agraire, si vous voulez, c'est la croix religieuse, chrétienne. C'est la croix de. Voilà, beaucoup de villages ont une entrée principale du côté dit de chemin de la messe, qui est aussi le chemin des morts. Et on arrête le cercueil à l'entrée. Mais je vous parle d'une civilisation qui a sombré il y a longtemps. Je l'ai vu, mais c'est maintenant. Donc les croix, on est là à se demander quelle est sa signification. Est-ce que c'est agraire, c'est prénéolithique, c'est hindou? Qu'est-ce que c'est maintenant? Tout simplement, c'est de tradition chrétienne sur des religions anciennes. Nous arrivons un peu plus près, ça c'est des manières de contenir les bêtes aujourd'hui. Hein, vous n'avez plus le palais, on n'a plus le temps de faire ça, on fait des conteneurs avec des. Encore maintenant, les marchands vous vendent des choses en tube.